Philippe Claudel, L'arbre du pays Toradja, roman.
God knows how I adore life. When the wind turns, on a shore lies another day. I cannot ask for more. Beth Gibbons.
Chapitre 1. Sur l'île de Sulawesi, vivent les Toradja. L'existence de ce peuple est obsessionnellement rythmée par la mort. Lorsque l'un d'eux vient à mourir, l'organisation de ses funérailles occupe des semaines, des mois, parfois des années. Il convient de faire venir à la cérémonie tous les membres de la famille du défunt. Cela peut représenter des milliers de personnes dispersées sur l'ensemble de l'archipel indonésien, voire au-delà. Les faire voyager, les héberger, les nourrir incombe à ses proches. Il n'est pas rare que ceux-ci s'endettent durablement afin de pouvoir respecter la tradition. Des maisons en bois, fines et gracieuses comme des barques, sont construites pour loger les invités. Du bétail est acheté en prévision des banquets. Porcs et buffles seront sacrifiés pour accompagner le disparu. Pendant tout ce temps, on conserve le corps de celui qui n'est pas encore considéré comme un mort, mais comme une personne malade, Tomazaki, dans le langage des Toradja. La sépulture dans laquelle il est inhumé est creusée à même la roche de certaines falaises sacrées. Dans des tombeaux qui ont la forme d'une niche, reposent les dépouilles de membres d'une même famille, gardées par des idoles en bois. Il arrive que les sarcophages pourrissent et s'ouvrent. Les ossements chutent alors et on les laisse au sol, parmi les feuilles et la terre. J'ai traversé le pays Toradja durant le printemps de l'année 2012. Je retrouvais dans cette île que je ne connaissais pas encore ce que j'ai toujours aimé ailleurs en Indonésie. Les êtres, souriants et paisibles, les paysages, vallonnés, parfois escarpés, qui composent un nuancier infini de vert, du plus pâle au plus sourd, les ciels, qui peuvent être longs et bleus et devenir le lendemain verticaux, collage de hauts nuages de plomb qui crèvent soudain pour laisser tomber sur les forêts, les chemins et les rizières une pluie chaude. La nuit, qui vient tôt, avec brutalité, et installe le sabbat des insectes et des geckos. Le plaisir de boire une bière glacée tout en mangeant un nasi goreng ou des satés de chèvre sur un trottoir, assis sur des chaises de plastique faites pour des gnomes. Celui de fumer une crétèque au parfum de noix de muscade et de cannelle. Près d'un village du pays Toradja, situé dans une clairière, on m'a fait voir un arbre particulier. Remarquable et majestueux, il se dresse dans la forêt à quelques centaines de mètres en contrebas des maisons. C'est une sépulture réservée aux très jeunes enfants venant à mourir au cours des premiers mois. Une cavité est sculptée à même le tronc de l'arbre. On y dépose le petit mort emmailloté d'un linceul. On ferme la tombe ligneuse par un entrelacs de branchages et de tissus. Au fil des ans, lentement, la chair de l'arbre se referme, gardant le corps de l'enfant dans son grand corps à lui, sous son écorce ressoudée. Alors, peu à peu, commence le voyage qui le fait monter vers les cieux, au rythme patient de la croissance de l'arbre. Nous enterrons nos morts. Nous les brûlons aussi. Jamais nous n'aurions songé à les confier aux arbres. Pourtant, nous ne manquons ni de forêt ni d'imaginaire. Mais nos croyances sont devenues creuses et sans écho. Nous perpétuons des rituels que la plupart d'entre nous seraient bien en peine d'expliquer. Dans notre monde, nous gommons désormais la présence de la mort. Les Toradja en font le point focal du leur. Qui donc est dans le vrai? Le soir même, en buvant des bières et en fumant des crétèques sur le petit balcon de ma chambre d'hôtel, Je repensais à l'arbre, à son bois nourri d'eau fragile et de chair disparue. Quelques vieilles dames américaines riaient très fort en contrebas, terminant leur dîner sur la terrasse du restaurant. Je les avais croisées quand j'étais rentrée. Elles étaient chaussées de baskets roses, vêtues de pantalons de randonnée kaki aux multiples poches, de chemises de coton et de gilets de reporters de guerre. Leurs têtes s'ornaient de cheveux blancs ou mauves, parfois violines. Toutes avaient le même nez refait, les mêmes yeux étirés, les mêmes lèvres repulpées. Elles atteignaient le point ultime de leur vie, mais leur visage avait le dessin abstrait et schématique de celui de jeunes filles artificielles, toutes identiques. On aurait cru des poupées échappées d'un magasin se plaisant à vendre, pour on ne sait quelle clientèle, des articles monstrueux. J'ai pensé à toutes les stratégies inutiles que nous mettons en œuvre sur nos corps pour tromper le temps et nos peurs. En face de moi, dans la nuit indonésienne, tandis que je savourais le parfum des cigarettes, je devinais par leur forme claire les buffles qui somnolaient debout au milieu des rizières, le crâne baissé vers la boue. Une pluie fine, ainsi qu'un peu de brume, coulait sur leur corps immobile. Ils paraissaient d'un autre siècle. Je les sentais à demi effacés. Je songeais à la disparition, à la venue au monde, à cette danse incohérente, parfois belle, parfois grotesque, qu'est notre vie. À notre fin aussi. Des crapauds bavardaient. De grandes chauves-souris se livraient au-dessus de ma tête à un silencieux duel. 3 mois plus tôt, je venais d'avoir 50 ans. Cela signifiait-il quelque chose? Près de moi, comme toujours, était posé un livre. Il s'agissait ce soir-là de « Qui a ramené Doruntine ?» d'Ismaïl Kadaré, que je relis au moins une fois tous les 2 ans. C'est une très belle histoire de promesses, de morts, de fantômes et de chevauchées. D'hiver aussi, qui est la saison au cours de laquelle il m'a toujours semblé que je devenais vraiment moi-même. J'avais un carnet et un stylo plume qui porte bien son nom, tant il est léger, acheté il y avait plus de 10 ans sur un marché de Saïgon. Je ne sais plus si j'ai pris des notes en repensant à l'arbre, à son écorce close sur les petits corps invisibles. Je n'en suis pas certain. Parfois, on écrit dans son cerveau mieux que nulle part ailleurs. J'étais entre 2 films, dans ce moment difficile où on s'interroge sur ce que l'on fait, se demandant si cela vaut la peine qu'on le fasse, si cela a un sens, et où l'on sait encore moins si l'on doit continuer. Mon dernier long métrage avait connu un accueil médiocre. Le public ne s'était pas pressé dans les salles. Sa carrière avait été un peu meilleure à l'étranger, dans la dizaine de pays dans lesquels il était sorti et où je l'avais accompagné, répondant aux mêmes questions, affichant le même sourire pour les photographes et me retrouvant seul le soir dans ma chambre d'hôtel à contempler les mignonnettes du mini-bar comme des amis d'infortune. Après cette tournée, j'avais décidé d'oublier ce film qui avait dévoré 2 ans de ma vie, de tourner intérieurement une page, et j'étais parti pour Sulawesi, avec un nouveau désir d'image qui commençait à poindre, encore vague et flou, attendant une mise au point que je ne me pressais pas de faire. J'ai depuis longtemps compris que nous ne faisons pas des films, mais qu'ils naissent de nous et se dessinent comme ils l'entendent au moment qu'ils ont choisi. Les vieilles américaines, on dirait que je parle de voitures, s'étaient tues. Sans doute avaient-elles regagné leur chambre. Je les imaginais désormais seules, devant le miroir de leur salle de bain, chacune contemplant son faux visage et lisant son âge véritable tout au fond de son œil triste. Chaque mensonge contient sa chute amère. 3 jours plus tard, je regagnais la France. Sitôt dans mon appartement, j'ai déposé mes bagages et bu un verre d'eau du robinet en regardant autour de moi. J'avais le sentiment d'arriver dans un pays étranger. Les odeurs étaient certes connues, mais elles appartenaient à une saison citadine dont j'avais été absent et dans laquelle je n'avais pas encore retrouvé ma place. Le parquet craquait sous mes pas. Des mouches mortes, pattes tendues vers le plafond, achevaient de se dessécher collectivement sur les tablettes de fenêtres. Je me considérais toujours ordinaire et exotique. J'avais toujours dans la bouche le goût singulier des crétèques. J'entendais pourtant au-dessus de ma tête des bruits familiers, en particulier le son du piano désaccordé de M. Bellagar, le vieux voisin du 8e à demi-aveugle, dont le visage et l'élégance cravatée ne sont pas sans rappeler Georges et Louis Borges, et qui joue mélancoliquement durant des heures des airs d'Europe centrale. J'ai fait le tour des pièces, ce qui est somme toute rapide, puisqu'il n'y en a que trois, et j'ai écouté les messages accumulés sur mon répondeur qui clignotait sur une table basse du salon, à côté de la photographie de Florence, mon ex-femme, qui me souriait. C'est ainsi que parmi eux, j'ai découvert celui d'Eugène. « Tu vas rire, me disait-il. J'ai un vilain cancer. »